Paul-Uzi Meyerson, bonjour. Aujourd'hui, bonjour. Votre invité sera Yigal Palmore.
Chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver à l'antenne et je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne santé. L'actualité du moment, c'est la signature d'un accord entre Israël et les Émirats Arabes Unis. S'agit-il d'un rapprochement historique qui ouvre des perspectives de paix dans le Golfe Persique ? Ou bien, s'agit-il simplement de la normalisation de liens multiples et anciens ? Et dans ces conditions, que devient le plan Trump qui prévoyait l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain en même temps que la création d'un État palestinien ? Nous allons demander à Yigal Palmore de nous éclairer sur cette nouvelle situation. Yigal Palmore a été pendant plusieurs années le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Israël, puis il a pris la direction des affaires internationales de l'agence juive. Yigal, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Oui, bonjour Yigal. Alors, le temps nous est compté, donc tout de suite, une première question. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a précisément dans l'accord Israël-Émirats Arabes Unis et à quoi s'engagent les deux États signataires ?
Alors, d'abord, l'accord n'est pas encore signé, donc il est trop tôt pour parler d'un accord en tant que document juridique. Ce que nous avons en ce moment, ce sont des déclarations des trois parties, Israël, Émirats Arabes Unis et les États-Unis, et également une déclaration conjointe qui a été publiée en anglais, et en anglais uniquement pour l'instant, et qui, même si elle n'a pas été signée officiellement, engage les trois parties. Et donc, nous pouvons en déduire qu'il y a un accord entre Israël et les Émirats Arabes Unis sur la normalisation des relations, ce qui comprendrait éventuellement l'échange d'ambassades, des échanges commerciaux et économiques en tout genre, des échanges en matière de tourisme, de recherche et développement, de culture et également en matière de vol direct. Et tout cela en contrepartie d'une suspension du plan israélien d'annexion d'une partie des territoires de Cisjordanie.
Ouais,
et évidemment, une promesse générale d'œuvrer ensemble pour que d'autres pays se joignent au mouvement et donc normalisent leurs relations avec Israël. Voilà ce que nous lisons dans le texte, voilà ce qui a été déclaré. Après, d'autres aspects ont été révélés, mais
on les connaît pas
nous
encore.
Y arriverons avec vos... Eh bien, on les connaît un peu quand même, parce que certains journalistes ont dévoilé qu'il y avait un accord tacite entre les États-Unis et Israël de permettre la vente d'équipements militaires ultra sophistiqués, y compris des avions F-35 qui sont à la pointe de la technologie des avions de chasse, aux Émirats Arabes Unis. Israël avait toujours imposé son veto que les États-Unis avaient pris en considération en matière de vente d'équipements ultra sophistiqués à des pays arabes pour maintenir la supériorité technologique de l'armée israélienne. Mais il paraît que maintenant ce veto n'est plus imposé, en tout cas il y aurait un accord tacite. C'est vrai que Netanyahou l'avait démenti, mais les dirigeants des Émirats Arabes et des États-Unis l'ont confirmé de leur propre voix.
D'accord.
Et donc il est tout à fait légitime de penser qu'il y aurait également dans les coulisses de l'accord diplomatique un accord sur des ventes d'armes massives des États-Unis aux Émirats Arabes Unis.
D'accord. Yigal Palmore, est-ce que vous pensez que c'est un accord historique, que d'autres pays du Golfe Persique et du monde arabo-musulman pourraient s'engouffrer dans la bêche ? On pense à l'Arabie Saoudite.
Alors, je divise votre question en deux parties. Est-ce un accord historique ? Oui, c'est un accord historique, même s'il ne faut pas exagérer son historicité, car il n'est pas le premier du genre. Alors, on a beaucoup parlé du troisième accord de paix entre Israël et un État arabe. Ce n'est ni le troisième ni un accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix parce qu'il n'y a jamais eu un état de guerre entre Israël et les Émirats. Il n'y a jamais eu de conflit armé. Il n'y a pas de revendication territoriale.
Ce n'est pas l'Égypte ni la Jordanie.
Exactement. Et donc, c'est un accord de normalisation et d'établissement éventuel de relations diplomatiques ouvertes et normales. Ça, c'est effectivement positif, mais ce n'est pas sans précédent, car Israël a déjà signé des accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Israël a également signé un accord de paix avec le Liban, un accord ratifié par le Parlement libanais le 17 mai 1983, mais cet accord a été annulé par le même Parlement, le même gouvernement libanais, 10 mois plus tard. En tout cas, un accord de paix avait été signé et une ambassade israélienne a été établie à Beyrouth, où elle est restée, je crois, environ presque deux ans. Et un quatrième accord de normalisation entière et complète avait été signé avec la Mauritanie, un pays arabe du Maghreb, en 1999. Et en 2009, à la suite de l'opération Plomb durci, les Mauritaniens ont décidé de rompre les relations avec Israël et de... Eh bien, ils n'ont pas vraiment annulé l'accord, mais en tout cas, il n'y a plus de relations avec eux depuis.
D'accord. Donc là,
c'est pas une première, mais c'est vrai que c'est un accord qui est signé en dehors d'un cadre de négociation politique ou diplomatique avec des pays arabes ou les Palestiniens, et en cela, il constitue une nouveauté. Et évidemment, un accord de normalisation des relations et d'ouverture, le premier du genre avec un pays du Golfe, c'est un accord historique. Il ne faut pas minimiser son importance. Est-ce que d'autres pays vont s'engouffrer dans la brèche ? Je doute très fort que ça soit le cas. Les Émirats arabes unis avaient leur propre intérêt spécifique en acceptant de signer cet accord, en acceptant cette ouverture vers Israël, en prenant des risques et en essayant de maximaliser leur gain politique, diplomatique et peut-être aussi matériel ou militaire. Ce n'est pas le cas d'autres pays du Golfe, ce n'est certainement pas le cas de l'Arabie saoudite qui est dans une situation différente et dans un rapport de force différent et dans la région et par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas non plus le cas du Bahreïn ou de Oman, des pays desquels il a été question dans cette discussion d'une possibilité d'ouverture. N'oublions pas qu'une ouverture, une normalisation ouverte des relations avec Israël, c'est toujours un peu un tabou dans le monde arabe et il faut beaucoup de courage, même pour un pays qui n'a jamais combattu Israël, pour franchir le cap. On ne voit pas les dirigeants d'autres pays avoir le même courage pour le moment, ou en tout cas y trouver leur intérêt.
Ok. Yigal Palmore, oui. Alors là c'est le deuxième aspect de cet accord. Israël s'engage à cesser toute annexion de territoire en Cisjordanie, notamment dans la vallée du Jourdain. Est-ce que cet accord avec les Émirats arabes unis rend caduc l'accord, le plan Trump ? Est-ce que on n'en parle plus, ça y est, c'est mort.
C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais il n'est pas complètement, il n'est pas complètement effacé de l'ordre du jour diplomatique, parce que, en tout cas, pour la diplomatie américaine, tant que l'administration Trump reste sur place, c'est toujours le seul plan valable pour obtenir un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Ça veut dire création d'un État palestinien sans annexion de la vallée du Jourdain ?
Ça veut dire création d'un État palestinien dans les frontières qui sont déterminées par le plan et qui sont aujourd'hui inacceptables pour la direction palestinienne. Mais ce plan comprend quand même une certaine dimension territoriale, puisqu'il détermine le territoire qui reviendrait à l'État palestinien. Donc le principe de l'État palestinien est établi par ce plan, Mais les frontières que ce plan préconise ne sont pas acceptées en ce moment par les Palestiniens. Donc on pourra dire que si ce plan venait à être accepté, appliqué, tel quel ou dans une autre forme, cela voudrait dire que des frontières serait tracé entre Israël et un futur État palestinien, et bien entendu, tout ce qui serait au-delà de la frontière israélienne reviendrait à l'État palestinien, tout ce qui serait en de ce côté-ci de la frontière, eh bien, deviendrait une partie intégrante de l'État israélien. Donc il y aurait une annexion, mais pas de manière unilatérale. Il y aurait, selon ce plan, je répète, selon ce plan que les Palestiniens refusent de négocier, il y aurait un État palestinien, mais le territoire qui ne reviendrait pas à l'État palestinien serait israélien. Donc il ne faut pas parler d'annexion unilatérale dans le contexte de ce plan.
D'accord. Donc, mais quand même, les Palestiniens, Mahmoud Abbas comme le Hamas d'ailleurs, ne veulent rien savoir du plan Trump et ils ne veulent rien savoir non plus de l'accord Israël-Émirat. On les comprend d'ailleurs. Alors comment ça va se passer? Vous pensez que des négociations peuvent quand même reprendre?
Alors les négociations pourront reprendre si les dirigeants de l'autorité palestinienne acceptent de rompre le silence radio qu'ils se sont imposé dans leurs relations avec les États-Unis. Ils boycottent totalement les États-Unis et la diplomatie américaine. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Et donc le plan, évidemment, a été concocté sans les consulter, puisqu'ils ont refusé d'être consultés. Les Américains, les diplomates américains qui ont rédigé ce plan ont consulté des Égyptiens, des Saoudiens, des Jordaniens, mais les Palestiniens ont refusé de parler. Donc si les Palestiniens acceptent de parler aux Américains, je ne dis pas aux Israéliens, mais aux Américains, il se pourrait que nous avancions vers une possibilité d'un retour aux négociations, mais on n'en est pas là. Parce que les Palestiniens doivent comprendre que tant qu'ils boycottent toutes sortes de contacts et tout dialogue, eh bien, la région avance. Et la preuve, c'est que les Émirats n'attendent plus les Palestiniens. Ils n'ont plus envie d'attendre. Ils ont avancé. Peut-être qu'après eux, il y aura d'autres. Peut-être qu'il y aura des avancées qui ne seront pas faites de manière ouverte. Et à visage découvert. Nous avions déjà des relations assez approfondies avec les Émirats, sous le radar, avant que n'intervienne cette initiative de normalisation. Et donc, si les Palestiniens continuent à s'enfermer dans leur silence et dans leur boycott, il n'est pas dit que les pays arabes les attendront. Et c'est un grand risque qu'ils courent, là.
D'accord. Gal Palmer, une dernière question. Il nous reste 2 minutes, là. Comment vous expliquez le revirement du Premier ministre Netanyahou sur l'annexion de la vallée du Jourdain? Et comment a été reçu cet accord en Israël, sachant que, d'après ce que j'ai pu lire, le cabinet de sécurité, le ministre des Affaires étrangères, Benny Gantz, le vice-premier ministre, n'ont pas été tenus au courant des pourparlers. Donc, comment ça s'est passé?
Alors, d'abord, comment expliquer le revirement de Netanyahou? Oui, c'est très simple en ce qui concerne le revirement. Il n'avait aucune possibilité d'aller de l'avant et d'appliquer son plan. Si telle était son intention au départ, ce dont certains observateurs doutent, mais pour l'appliquer, ce plan d'annexion, il avait besoin d'un feu vert de la Maison-Blanche. Et ce feu vert, il ne l'avait pas obtenu, parce que la Maison-Blanche insistait sur une contrepartie aux Palestiniens, c'est-à-dire annexion d'une certaine partie de la Cisjordanie par Israël, oui, mais en contrepartie, certaines parties de ce territoire devaient être remises à l'autorité palestinienne, ce que Netanyahou avait refusé, et donc il n'avait pas l'aval de la Maison-Blanche pour continuer à mettre en œuvre ce plan d'annexion. Le plan d'annexion était mort lorsqu'il a accepté de le suspendre, et c'est cela qui explique le revirement. Il a reçu un cadeau, c'est-à-dire cet accord de normalisation avec les Émirats. Et en échange, il a renoncé, en tout cas pour le moment, il a renoncé à un plan qu'il n'avait pas la possibilité d'appliquer. Comment ceci a été reçu en Israël? Eh bien, d'abord, les soutiens de Netanyahou ont réagi en groupe dispersé. Ouais. Ceux qui avaient mis tout leur espoir sur l'annexion
ont
été, les autres le félicitent. Voilà.
D'accord. Je vous remercie beaucoup, Yigal Palmore, d'avoir participé à ce rendez-vous et à nous avoir expliqué la situation. On est un peu court, alors faut arrêter. Voilà, on a 15 minutes. Donc, je vous souhaite bonne semaine à tous et à toutes. C'était Paul Ozimiersen à l'antenne avec Chronique pour la paix. Abu et Hagar, Gilochalom.